Chère radio mouqueuse, radio mouqueur, bienvenue dans cette deuxième session dédiée à la place des émotions dans l'entreprise. Au début des années 90, des chercheurs ont réussi à répertorier les émotions les plus fréquemment ressenties, pas forcément exprimées, au travail. On retrouve beaucoup d'émotions dites négatives comme l'ennui, l'anxiété, le désespoir, la tristesse, la culpabilité, la honte, la jalousie, la colère, l'inquiétude, le mépris et la peur. Justement, cette peur ou cette angoisse, nous la retrouvons dans bon nombre de métiers, mais notamment dans un, le métier de trader. J'ai d'ailleurs eu la chance, il y a quelques mois de cela, de converser avec un trader repenti, Gerrit Anderson, alias City Boy, d'ailleurs l'auteur d'un best-seller portant ce nom de City Boy. Selon lui, 5 émotions viennent jalonner le quotidien du trader. Vous avez la peur, donc, quand il y a un ralentissement majeur sur les marchés, l'avidité quand les marchés sont à la hausse, la nervosité le jour des primes, la déception après avoir reçu la dite prime et l'exubérance lors de la sortie au pub avec les collègues le jeudi soir. Cette peur, cette angoisse qui fait partie du quotidien du trader a des impacts extrêmement négatifs sur la santé psychique et physique de ces personnes-là. Par exemple, une étude révèle qu'aux États-Unis, les métiers de trader, de banquier et de broker font partie du top 30 des professions avec les taux de divorce les plus élevés. D'ailleurs, petite parenthèse, la catégorie socio-professionnelle qui pointe en première position de ce classement est les acteurs-actrices. Le métier de trader est aussi anxiogène que demandant. Voilà pourquoi il travaille à des rythmes fous, plus de 100 heures par semaine. Sachez que des études révèlent quand même que travailler plus de 55 heures par semaine augmente de 33% le risque d'AVC et de 13% celui de développer une maladie des coronaires, comparé à un travail hebdomadaire de 35 à 40 heures. J'ai d'ailleurs encore en mémoire cette terrible histoire, celle de Moritz Erhardt, un jeune Allemand de 21 ans, qui effectuait son stage à la City dans la banque d'investissement Merrill Lynch, une filiale de Bank of America, en FUSAC, fusion-acquisition. Les rythmes de travail et les mentalités sont proches de celles d'un trader. Voilà pourquoi je vous donne cet exemple-là. Ce jeune homme s'était littéralement tué au travail. Il aurait d'ailleurs travaillé 72 heures d'affilée sur son écran d'ordinateur, soit 3 nuits blanches consécutives passées à analyser les listings et les tableaux. En novembre de cette même année, l'enquête de Scotland Yard a conclu que le jeune loup était mort d'une crise d'épilepsie, sans doute déclenchée par son état de stress extrême et de fatigue avancée. Une étude, publiée dans une revue académique prestigieuse, a révélé que le métier de banquier d'investissement est dangereux pour la santé. Les chercheurs ont suivi 9 ans durant, à compter de la sortie de leur école de management, une vingtaine de jeunes Golden Boys destinés à être les futurs stars de Wall Street. Cette étude ethnographique révèle que durant les 3 premières années, les jeunes loups, bien que travaillant en moyenne autour de 100 heures par semaine, comme je l'évoquais précédemment, restaient enthousiastes et énergiques pendant cette période. Généralement, ils arrivaient au bureau à 6 heures du matin et repartaient autour de minuit. Mais la 4e année, le manque de sommeil se faisait ressentir. Ils commençaient alors à développer des troubles alimentaires, des insomnies, des allergies ou des addictions à certaines substances, à avoir des problèmes de tachycardie, à être irritables. Certains attrapèrent même la maladie de Crohn, une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, d'autres de l'arthrite ou du psoriasis. Face à ce déferlement d'effets secondaires liés à un trop-plein d'angoisse, eh bien, il y a 2 ans, en 2014, Bank of America, Goldman Sachs, JP Morgan, Crédit Suisse et d'autres grandes banques ont envoyé des messages à leurs jeunes traders pour les inciter fortement à prendre du repos. Une pause s'impose. Pour certains, il faut même fliquer les émotions du trader, car celles-ci peuvent être intimement corrélées à de la sous-performance. C'est en tout cas l'hypothèse faite par ABN AMRO et Philips qui, il y a quelques années de cela, décidèrent ensemble de développer ce qu'ils ont appelé le Rationalizer. Il s'agit en fait d'un bracelet qui est porté au poignet et qui, à travers des mesures de conductivité épidermique, palpitations, rythme cardiaque, va être capable de détecter l'activité émotionnelle du trader. Et si l'activité est bullante, donc si le trader ressent des émotions fortes, eh bien le bracelet va envoyer un signal à une lampe Philips dont les faisceaux vont s'activer et rougir, signalant au trader qu'il ne faut surtout pas appuyer sur la touche Enter et commettre une grosse bévue. Ici, vous l'aurez compris, l'émotion, c'est l'ennemi. Dans ce MOOC, je vous donnerai une vision contraire, tentant de vous convaincre que l'émotion est plus utile et qu'elle sert plus qu'elle ne dessert les gens d'entreprise. Tiens, restons toujours dans l'entreprise. Un concept est né au début des années 80, l'idée que les employés expriment de manière intentionnelle et entraînée des émotions particulières dans l'exercice de leur activité professionnelle, face à un client ou à un collaborateur. Ces métiers ont un nom, ce sont les métiers émotionnels. Il y en a différents, comme par exemple le steward ou l'hôtesse de l'air, qui, lorsque nous paniquons à l'intérieur de la carlingue, vont afficher un large sourire pour tenter eh bien, de nous rassurer. Prenez également les avocats qui sont tenus d'exprimer de l'agressivité dans le tribunal. Prenez les policiers en charge d'interroger les criminels qui, en binôme, usent de stratégies émotionnelles. C'est le bon flic à émotions positives et le méchant flic au comportement hostile envers le gardé à vue. Une mise en scène construite pour faire craquer le suspect et le pousser aux aveux. D'ailleurs, cette stratégie-là, elle a été observée empiriquement par des chercheurs auprès de policiers de Scotland Yard travaillant leur gardé à vue. Le métier de manager ou de dirigeant est lui aussi émotionnel. À ce propos, voilà ce que m'avait confié à l'époque l'ancien patron de Sony France. Je ne pense pas que l'on puisse être un être froid et désincarné. Le monsieur Test de Paul Valéry n'existe pas. C'est un fantasme d'écrivain. Le dirigeant, contrairement à ce que l'on peut penser, ne se trouve pas dans un monde rationnel où tout se codifie, s'analyse, s'explique. Ce serait tellement confortable, tellement facile de pouvoir être monsieur Test. La rationalité affichée par le dirigeant n'est qu'un habillage obligé, l'usage étant de cacher l'exploitation de l'émotion, alors que le management n'est que gestion de l'émotion et des autres. Et je serais tenté de dire gestion également de ses propres émotions. Vous savez, il y a quelques années, quand j'avais un peu plus de temps, je me rendais quasi tous les mois dans une clinique en Suisse pour aller parler à des anciens cadres de la place parisienne qui avaient été totalement désaxés émotionnellement. Ils déambulaient dans les couloirs comme des zombies médicamentés. Et tous me disaient la même chose, nous n'avons pas su gérer nos émotions, nous n'avons pas été éduqués pour ça. Nous nous sommes crus plus forts qu'elles et nous revêtions systématiquement notre habit de Superman, le collant rouge de la rationalité et la cape bleue d'un super pouvoir analytique. Gardez en tête que l'émotion est tenace et que même si vous cherchez à la refouler, eh bien, elle restera en vous et voudra faire surface. Je pense souvent à ce film Jurassic Park avec ce mathématicien célèbre qui avait mis en garde les concepteurs du parc en leur disant « Attention, vous cherchez à contrôler la naissance des dinosaures, mais ce n'est pas possible car la vie trouve toujours un chemin. » Il en va de même pour l'émotion refoulée, elle trouvera toujours un chemin. Et plus vous refoulez d'émotions, plus vous tentez de les ensevelir sous un tas de sable, plus vous prenez le risque qu'un jour, tout cet amas, ce magma émotionnel vous saute au visage, telle une éruption volcanique psychique, vous menant peut-être directement au burn-out. Allez, revenons-en à un témoignage d'un dirigeant. L'ancien PDG de Ford France me disait la chose suivante à propos du dirigeant d'entreprise. Il y a une sorte de non-dit dans le monde du management. Le patron est forcément fort, brillant, solide, indestructible, j'en passe et des meilleurs. Mais il n'est jamais perçu ni présenté comme un être humain normal qui fait simplement un job différent de celui des autres. L'aspect émotionnel affectif fragile de la personne humaine au niveau du patron n'a jamais été réellement étudiée. Avant d'être patron, je suis un homme. Et je connais des patrons hommes qui sont l'inverse des patrons de machines. Édouard Michelin était un patron homme. Jean-Philippe Thierry me disait la chose suivante. Je pense que, de façon très simple, on voit qu'il y a différents types d'intelligence chez le dirigeant. Il y a des intelligences cartésiennes qui sont des intelligences de mathématiciens. Elles déroulent des logiques froides. Et puis il y a des dirigeants qui réagissent à des émotions, qu'elles viennent de la qualité d'un projet, son intelligence, sa beauté, et qui, eux, arrivent à mettre en route leur sens, leur cerveau et leur imagination à ce moment-là. Je suis sensible à ça. Que coule le sang régénéré de l'émotion dans le corps organisationnel de l'entreprise, c'est ce que les managers et les dirigeants, sans forcément se l'avouer, semblent appeler de leurs vœux. Une révolution affective du management est en marche depuis quelques années, avec, comme bonapartiste, une poignée de chercheurs qui révèlent l'existence d'interactions émotionnelles fortes dans les lieux de décision comme de pouvoir. Mais entendez-moi bien, je ne suis pas en train de faire un plaidoyer pro-domo pour le tout émotionnel, car une entreprise qui ne saurait manager qu'à l'émotion ne serait plus une entreprise, ce serait une foule. A contrario, une entreprise qui n'est managée qu'au rationnel, qu'à l'analytique, qu'aux chiffres, n'est pas une entreprise, c'est un mauvais remake d'un mauvais film de science-fiction. La vérité est sans doute à mi-chemin entre ces deux visions extrêmes, et elle pourrait bien représenter ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. QE sans QI n'est que ruine de l'âme, comme QI sans QE n'est que ruine de l'esprit. Dans la session suivante, nous allons nous intéresser à l'intelligence. Merci de m'avoir écouté.